On va parler de l'évolution, ce qu'elle comprend, et un petit peu de la création. En fait, ce soir, je vais commencer par le point qui est malheureusement le plus répandu dans notre monde, qui est l'évolution. Alors, si vous avez commencé à lire les quelques panneaux qui sont sur votre côté là-bas, c'est des panneaux que j'aimerais un jour pouvoir faire à la taille réelle, c'est-à-dire que c'est des panneaux qui doivent faire 1m60 de haut par 80 cm de large. Donc là, vous avez une idée de ce à quoi ça va ressembler, mais au format A3. Voilà. Et vous allez voir que ce que je vais vous apporter ce soir à travers la première prédication, il y a pas mal de choses que vous trouvez sur les panneaux. Donc si vous avez commencé à les lire, vous risquez de retrouver des points communs avec ce que je vais vous dire, parce que cette première prédication, je vais tirer des panneaux que j'ai préparés. Tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Je dois aussi dire en premier lieu que je ne suis pas scientifique. Je suis juste un amateur de tout ce qui est l'univers, les étoiles, les galaxies, l'astronomie, ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas astronome non plus, hein. Voilà, je n'irai pas jusque là, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une passion que j'ai et que je voudrais vous faire partager durant ces quelques jours, et pour qu'à la fin vous puissiez prendre conscience. Et c'est certainement déjà fait. Si c'est fait, tant mieux. Mais que vous puissiez repartir d'ici vraiment en songeant que Dieu existe, si vous vous posez la question de savoir s'il existe, et de savoir que Dieu s'occupe de vous et s'intéresse à vous. Alors, en principe, avec les quatre prédications que je vais apporter, j'aurai des images, demain j'aurai des images et un petit film, et puis vous verrez par la suite, hein. Voilà, donc ça fait que j'espère que les enfants aussi prendront un petit peu de temps avec nous. Voilà. Donc on va prier avant tout, et ensuite on va pouvoir voir cette première prédication ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de te connaître. Et c'est un vrai privilège que de savoir que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous connais parfaitement, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais ce qui anime notre cœur et nous voulons te remercier pour cela. Te remercier de savoir que tu es auprès de nous et que tu prends soin de nous, que tu nous connais parfaitement par notre prénom et tu connais tous les domaines de notre vie. Je veux Seigneur te demander de nous conduire à travers ces quatre prédications et que tu veuilles disposer nos cœurs à écouter ta parole et à recevoir ton enseignement pour pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Bénis chaque personne ici présente, et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'évolution? Si je vous dis évolution, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Darwin.
Théorie.
Singe.
Mais t'as raison. Milliards d'années. Quoi d'autre? Évolution, ça vous fait penser à quoi? Big Bang. D'accord, l'avancée, donc ça veut dire qu'on découvre toujours de nouvelles choses. D'accord.
Des espèces humaines.
Okay. Préhistoire. La science. Un ancêtre commun. Je ne sais pas si on a le même. Mais on va voir ça ce soir. Peut-être, hein. Ça dépend de quel ancêtre on parle. Hein. Milliards d'années. Chez nos manquants qu'on n'a toujours pas trouvé. Encore un ou deux peut-être synonymes. Homo sapiens, sapiens, d'accord, un dernier peut-être. Après, il y a. Alors, parce que tout le monde parle en même temps. Et puis en plus, je vous entends pas très bien. Je ne sais pas si c'est moi qui vieillis, ou si c'est vous qui parlez pas assez fort, ou peut-être les deux. Donc, tu m'as dit. Ah, d'accord, c'est qui a dit quelque chose. Alors, ça va, tu as dit.
Non, mais je n'arrive pas à trouver la suite, donc je n'ai pas la
peine. D'accord. Bon, déjà, si tu la trouves demain, tu nous l'apporteras demain, ok? Voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire que, voilà, vous avez tous, à un moment ou à un autre, à certains degrés, tous entendu parler de la soi-disant théorie de l'évolution. Ok ? Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos livres, dans les émissions scientifiques, par exemple, ou au sein des scientifiques eux-mêmes, tous affirment que l'évolution est une théorie par excellence. Ok ? On verra si on peut donner le terme de théorie à l'évolution. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a une question qui peut se poser. Une première question qui peut être posée. Peut-on faire totalement confiance à ce que les scientifiques appellent une théorie ? On va peut-être pas pouvoir répondre tout de suite, mais ça va venir dans les minutes qui suivent, vous allez voir. Est-ce que vous savez ce qu'est une théorie ? Avant d'aller plus loin, parce qu'on parle de la théorie de l'évolution, de la théorie de ce que vous voulez, mais c'est quoi une théorie ? Une idée ou des idées, exact.
C'est un concept à démontrer, c'est un postulat à penser.
Exactement, un concept à démontrer. Vous allez voir que c'est pour ça qu'on a tendance, et les scientifiques les premiers, à parler de théorie de l'évolution. D'accord ? La théorie de l'évolution fait appel à trois grandes disciplines scientifiques. Je vais simplement vous nommer les trois théories, enfin les trois disciplines, mais on ne va pas plonger dedans parce que déjà même moi je m'y perdrai, donc je ne vais pas vous perdre avec moi. Mais quand on parle de théorie d'évolution, on parle obligatoirement de la génétique, de la paléontologie et de l'anatomie comparée. Ok ? Gardez ça de côté si vous voulez. Vous pourrez regarder à la maison sur internet ce que c'est que la génétique, la paléontologie, l'anatomie comparée. On ne va pas prendre notre temps ce matin. Ce soir, pardon. Donc, la théorie de l'évolution est généralement acceptée comme un fait de la science. Pourtant, vous l'avez dit vous-même, quand je vous ai posé la question c'est quoi une théorie, pourtant personne n'a jamais observer les mécanismes de la théorie de l'évolution. Est-ce que le singe est vraiment l'ancêtre ? Alors, je pense que c'est de cet ancêtre-là que tu parlais, Anne, probablement, l'ancêtre commun, si on reste dans l'évolution. Hein. Voilà. Mais ce qui est fantastique avec la science, c'est qu'on ne s'arrête jamais parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Et ce qu'on a découvert hier n'est plus valable aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a découvert autre chose. Et puis demain, comme on va découvrir encore autre chose, ce qu'on a découvert aujourd'hui, ça ne tiendra plus la route. C'est ça qui est formidable avec la théorie de l'évolution. On ne sait jamais où on va. En tout cas, est-ce que le singe est vraiment l'ancêtre de l'homme ? Et le reptile, celui de l'oiseau. Alors on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'un reptile peut devenir un oiseau ? Alors, il y a quelques, une toute petite dizaine d'années, je regardais une émission scientifique, j'aime beaucoup ça. Des fois je m'endors devant, mais c'est quand je ne comprends plus. Mais il y avait un scientifique là, qui disait, mais sérieux, nous savons maintenant comment les oiseaux sont arrivés. Les reptiles, afin de ne pas être mangés par les animaux plus gros, se sont mis à courir toujours de plus en plus vite. C'est cette idée, théorie, d'avancer toujours. Okay ? Donc les reptiles ont commencé à avancer toujours de plus en plus vite. Et certainement ils avaient 4 pattes, et il y en a 2 qui peut-être allaient plus vite que les 2 autres, et puis ont commencé à faire ça. Et je peux vous garantir, c'est drôle ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pourtant sorti de la bouche d'un scientifique il y a une petite dizaine d'années. Je suis sûr qu'aujourd'hui, cette théorie-là, pour beaucoup de scientifiques, ne tient plus la route. Mais c'est simplement pour dire que ce qu'on découvre aujourd'hui, il y a de fortes chances que demain ou après-demain, ça ne tienne plus la route. Donc, l'évolution est basé sur la théorie de la sélection naturelle. Vous avez tous entendu parler, je pense, de la sélection naturelle. Ok ? On appelle ça aussi la préservation du plus apte. Donc, je ne sais pas si on va prendre du temps à expliquer ce que c'est. Si vous êtes fort et que vous mangez les autres, vous vivez. Si vous êtes faible et que vous vous faites manger, vous mourrez. C'est ça, en quelque sorte. Ok ? Selon cette théorie, lorsqu'apparaît une mutation favorable à une certaine population d'animaux. La nature sélectionne les animaux les plus forts, les plus aptes à survivre, et les autres sont appelés à disparaître. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme-là. Tim, tout à l'heure, disait que c'était moi avec la barbe. Et la barbe, je l'avais il y a quelques semaines, la barbe. Mais je ne ressemblais pas encore tout à fait à ça, elle n'était pas aussi longue. Quelqu'un connaît cet homme? Ah, quelqu'un connaît. Alors, Darwin, est-ce que quelqu'un dit autre chose? Alors, l'avantage de ce genre de coupe et de barbe, c'est qu'on les confond tous. En fait, c'est pas Darwin. Non plus. Non plus. Il était pas russe, celui-là. En fait, c'est Ernest Haeckel. Voilà. C'est un biologiste et un philosophe allemand. Ok? L'arbre ici, qu'on appelle l'arbre d'Haeckel, selon lui, à l'époque, et vous allez voir que ça a changé depuis, présuppose le développement spontané d'une cellule vivante. C'est-à-dire que on est parti de la monera, ici, pour arriver jusqu'à l'homme. Ok? En passant par l'orang-outan, ou le gorille, ou le chimpanzé. Voilà. Alors tout ça, c'est en anglais. Donc vous choisissez celui qui vous plaît le plus, hein, en sachant que vous partez, nous partons tous, si on suit l'évolution, de la monera, un truc qui est plus petit que ce que je vous montre là. Ok? C'est une cellule vivante. Ok? Donc, pour Haeckel, cette cellule-là est apparu de ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, de la génération spontanée. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la génération spontanée? C'est quoi?
La génération spontanée, c'est le fait que du vide, une matière peut apparaître.
C'est presque ça. Pas tout à fait. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous pouvez dire quelque chose, hein, vous savez. Oui, vous inquiétez pas, on n'est pas en contrôle continu. Hein. Il n'y aura pas de diplôme de scientifique à la fin. Quand il y avait quitté Thierry qui avait levé la main, non? D'accord. Anne aussi, c'est toi?
Mais peut-être que ça me rappelle une histoire, la saucisse, je ne sais pas si c'est lui ou un autre. Qui avait mis un
coup
de grain dans un grenier, qui avait dit ça va produire des souris.
D'accord. Voilà, alors ça c'est un autre exemple de la génération spontanée. Alors en même temps, ce que je suis en train de vous dire là, si vous avez fait partie de la retraite à Tonnins il y a quelques 3-4 ans, j'avais fait un petit peu, déjà un petit peu ce. Parler de l'évolution comme ça, et j'en avais parlé justement. Donc, on va voir que la génération spontanée, on va voir ce que c'est. On croyait que, par exemple, des vers, les petits vers blancs, pouvaient naître spontanément sur un morceau de viande laissé à l'air libre. Ok? Je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Dans un bocal, vous mettez de la viande à l'air libre. Ok? Viande contaminée par les asticots, par les petits vers blancs. Vous prenez le même bocal, protégé par un papier, la viande ne sera pas contaminée. Toujours le même bocal, et dessus vous mettez une gaz. Vous savez, comme dans, à l'hôpital ou ainsi de suite, qui laisse passer un petit peu d'air. Donc vous avez l'odeur de la viande qui s'échappe, et les mouches, en fait, viennent pondre sur la gaz. Okay. Donc, ce qu'on pensait avant, c'est que à partir d'un morceau de viande, dans ce cas-là, des vers pouvaient naître, apparaître comme ça d'un coup. Okay. Et en fait, c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler qui a démontré le contraire, c'est Louis Pasteur. Okay. Et c'est Louis Pasteur, alors, il n'a pas utilisé ce genre de bocaux, lui, il a utilisé ce qu'on appelle des fioles à col de cygne. Une espèce de fiole comme ça, puis ça remonte tout fin, puis ça part comme ça. Donc il avait mis de la nourriture ou autre chose dedans. Il a fait le même principe, ouvert, complètement fermé, et en laissant de l'air un petit peu passer. Voilà. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait ce sont les mouches qui venaient pondre sur la gaz ou dans la viande, dans ce cas-là, et de là naissaient les vers. Pour rejoindre un petit peu ce que Anne a disait, avant ce qu'on pensait c'est que quelqu'un avait laissé une chemise à laquelle il avait travaillé, donc il avait transpiré, donc ça fondait un peu. Il a laissé ça, sa chemise posée sur des sacs de blé. Et quelques jours après, il ouvre un autre pot et il voit des souris sortir. Et on a pensé qu'une chemise avec de la transpiration et du blé, à partir de ces deux éléments-là, les souris arrivaient. Alors, vous imaginez bien que les souris venaient plus pour le blé que pour la chemise. Hein? Peut-être qu'ils profitaient de la chemise pour faire leur nid, je ne sais pas. Mais nous, aujourd'hui, ça nous paraît tellement aberrant. Parce que croyez-moi, si vous voulez transpirer, je pense qu'on va faire du sport demain, vous gardez vos chemises, vous ne la lavez pas, vous trouvez de la farine ou ce que vous voulez, vous pouvez le laisser sur place, les souris ne vont pas naître. Elles vont peut-être venir. Mais elles ne vont pas naître de votre transpiration mélangée avec le blé. Ok ? Donc, de ce fait, cette croyance de la génération spontanée, grâce à Pasteur, on n'en a plus entendu parler. Mais pendant des années et des années, on était certain que ça se faisait comme ça. D'où l'arbre, ici, à partir de là, une cellule qui est apparue à partir de, on ne sait pas quoi exactement, pour se développer, évoluer avec des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Alors, c'est juste une petite date, si vous prenez des notes, c'est en 1859 que Louis Pasteur a démonté la croyance en la génération spontanée, en 1859. Voilà, dans 3 jours, je vous poserai des questions sur les dates. C'est l'année même où Darwin a formulé sa théorie de l'évolution. Alors, on va parler un petit peu de la méthode scientifique. On va voir comment fonctionne le domaine scientifique. On étudie les lois de la nature pour en comprendre les mécanismes et pour pouvoir les expliquer, si on y arrive. Pour y arriver, les scientifiques ont mis au point une méthodologie que vous retrouverez sur tous les petits documents que je vous ai mis là-bas. Une méthodologie détaillée, rigoureuse, puisque ce sont des scientifiques, qu'on appelle la méthode scientifique. Alors voici en quoi consiste cette méthode. On fait des observations, on observe des choses. On prend des mesures comme le temps, par exemple. Pas le temps qui fait dehors, mais le temps qui passe. Les distances, les poids, d'autres mesures. En principe, les observations basées sur les opinions personnelles, sur les croyances ou les impressions, ne font pas partie du domaine de la science. C'est-à-dire qu'un scientifique ne peut pas dire « je crois que ». Donc, je pense que ça se fait comme ça. Parce que si chacun croit à une manière différente, déjà qu'ils ne s'entendent pas toujours entre eux, alors imaginez si chacun apporte ses idées à lui, d'accord ? Ou ses croyances, ou ses opinions personnelles. Si par exemple, donc c'est pour ça qu'il faut bien, ils ont mis en place des observations qu'ils prennent en compte. Est-ce que quelqu'un est frileux ? T'as pas de frileux ? Si, il y a que ma fille qui est frileuse. Marcel aussi, voilà. Marcel, t'es frileuse à partir de quelle température dehors ? Combien ? À 10 degrés, voilà. Marcel, à 10 degrés, si elle va dehors, elle n'a pas de thermomètre. Et si effectivement il fait 10 degrés, elle peut dire, il fait froid ici. Aujourd'hui, dehors, il fait froid. Moi, si je sors à 10 degrés, je vais dire, ben non, je ne trouve pas qu'il fasse froid. Donc, il y a ce qu'elle ressent, elle, et l'âge n'a pas d'importance là-dedans. Hein. Je dis ça parce que quand on est plus âgé, souvent on est plus frileux que quand on était jeune. Et prenez deux personnes du même âge, voire du même sexe, un va être frileux et pas l'autre. D'accord ? Donc, il y en a un qui va sortir et qui va dire, il fait froid, je vais mettre une veste, et l'autre qui va peut-être, au contraire, enlever sa veste parce qu'il trouve qu'il fait bon. Donc, c'est simplement pour dire que si vous dites dehors il fait 22 degrés, c'est parce que vous avez un instrument qui vous indique que dehors il fait 22 degrés. Mais vous ne pouvez pas sortir en disant, à mon avis, entre 20 et 25 degrés. Vous serez dans le bon, mais vous ne saurez pas s'il fait 20, 21, 22, 23, 24 ou 25 degrés. Ok, c'est pour ça que les scientifiques, en principe, utilisent des instruments pour dire on a observé telle chose, donc on peut dire que telle chose est vraie. Ce qui n'est pas le cas, vous l'imaginez, de l'évolution. Donc, à partir des observations mesurables, les scientifiques vont pouvoir formuler une hypothèse. D'accord ? Par exemple, vous avez entendu parler du scorbut ? Un petit peu ? Je veux dire ce que c'est. On peut dire par exemple, il semble que le scorbut soit causé par un manque de vitamine C. Ok ? C'est une hypothèse. Une hypothèse n'est pas une certitude. On suppose que le scorbut est dû à un manque de vitamine C. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y a une hypothèse qui est là. On suppose que le scorbut est dû à telle chose. Donc, on va vérifier l'hypothèse qu'on apporte. Donc, pour la vérifier, il faut vérifier si... on va vérifier pour que l'hypothèse demeure valide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre deux groupes d'animaux, par exemple. Un premier groupe d'animaux va être nourri avec des aliments riches en vitamine C. Et le deuxième groupe avec des aliments sans vitamine C. On observe avec un peu de temps que les individus du premier groupe ne contractent pas cette maladie-là. Contrairement à ceux du deuxième groupe. Maintenant, pour qu'une expérience soit statistiquement valable, là on est en train de vérifier l'hypothèse, il faut la répéter un minimum de 30 fois. Alors, on ne va pas prendre 30 fois deux groupes d'animaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 30 animaux, tout simplement, et on va vérifier avec les 30 animaux d'un côté et les 30 animaux de l'autre, par exemple. Et si on voit que... alors, il faut que ce soit les mêmes paramètres et il faut que ce soit les mêmes races d'animaux. Donc, tout rentre en compte, là. Dans ce cas-là, il faut que ce soit le même âge, le même sexe. Donc, ceux qui auront été maintenus tout au long de l'expérience avec de la vitamine C n'auront jamais attrapé le scorbut. Ceux qui auront été nourris sans vitamine C, plusieurs de ces animaux, pas forcément tous, auront pu attraper le scorbut. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Si vous commencez à me perdre, dites-le moi ou levez la main. Ok ? Donc, si on peut reproduire l'expérience au moins 30 fois, on peut alors formuler une théorie. D'où la théorie de l'évolution. Okay? Et d'ailleurs, on a fait des expériences avec des animaux et on peut dire que c'est une théorie. Une théorie, je vous ai posé la question, c'est quoi une théorie ? Une théorie, en fait, c'est des idées. Une théorie, on ne peut pas parler de théorie de l'évolution parce que l'évolution, ce sont des idées, des hypothèses. Une théorie, c'est quelque chose qui est clairement établi, qu'on a pu démontrer. C'est ça, une théorie. Donc, il y avait une hypothèse. On vérifie l'hypothèse et on met à l'épreuve, maintenant, la théorie. Les membres de la communauté scientifique vont se faire un devoir d'apporter toutes les objections possibles à la théorie avancée pour voir si ça tient la route ou pas. D'accord ? Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu parler de Isaac Newton. Ok ? Qu'est-ce qu'il a reçu, ou à côté de lui, ou sur la tête, c'est ce que la légende dit ? Une pomme. Ok ? Alors, Isaac Newton était un physicien et astronome anglais, considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Il a observé que la pomme, se détachant de l'arbre, tombait par terre. Pour tenter de trouver une explication à ce phénomène, Newton a émis l'hypothèse que le fruit tombait du sol parce qu'il était attiré par une force qu'il a appelée l'attraction terrestre. Ok ? Vous avez certainement des gens qui, avant lui, ont vu peut-être des fruits tomber ou autre chose tomber, mais ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça tombe par terre, pourquoi est-ce que ça reste pas là ou pourquoi ça s'envole pas. Donc,
this is a demonstration of
dans la même idée, il y a une hypothèse. Je suppose qu'il y a quelque chose qui attire l'objet vers le bas, ce qui est lui appelé l'attraction terrestre. Donc, il va vérifier l'hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ou il va reprendre exactement la même pompe pour ne pas abîmer les autres, il va la refaire tomber plusieurs fois, il va la tenir, il va la lâcher. Il va la reprendre, la tenir, la lâcher, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça retombe. D'ailleurs, si vous faites l'expérience avec un crayon, vous faites ça 150 fois, 150 fois, ça va retomber par terre. Donc là, on vérifie et on met à l'épreuve l'hypothèse pour que ça devienne une théorie. Donc gardez bien à l'esprit qu'une théorie, c'est quelque chose qu'on peut démontrer à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de théorie de l'évolution.
C'est comme effectivement la théorie des groupes, on peut démontrer mathématiquement sur les théories.
This is a demonstration of Superman.
Oui. Mais c'est ça. Mais c'est bien parce qu'au moins on a de l'échange. Tout à fait. Donc, la théorie maintenant de Newton n'a jamais été infirmée, démentie, mais bien au contraire, elle a toujours, encore jusqu'à maintenant, été confirmée. Quand un objet sort plus lourd que certains gaz qui s'envolent, vous le lâchez, ça tombe par terre.
Donc,
il n'y a aucune observation qui a été faite dans le domaine de l'évolution des espèces, dans l'évolution de l'homme. Personne n'a jamais pu observer la naissance ou la génération spontanée d'une cellule vivante. D'ailleurs, ni même observer une cellule vivante se transformer en organisme encore plus complexe. C'est ce qu'on appelle une pluricellulaire. Okay. Ni observer une espèce animale ou végétale se transformer pour donner naissance à une autre espèce qui n'a rien à voir avec son espèce à elle. On n'a jamais vu ça. Et ça ne se verra jamais. Alors, qu'est-ce que disent les scientifiques? Parce que si effectivement... Il est où, mon singe? Alors, si le gorille ou l'orang-outan, parce qu'il paraît qu'avec l'orang-outan, on est à 90% semblable à l'orang-outan. Alors, moi, je serais peut-être un peu semblable à l'orang-outan, mais je ne suis pas un orang-outan. Ok? Alors, rigolez pas, parce que je suis sûr qu'il y en a qui en ont plus que moi. Eux, peut-être qu'ils viennent du gorille ou de l'orang-outan, je ne sais pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si effectivement, on garde cette idée, que cette hypothèse, et non pas théorie, cette hypothèse, qu'on descend du singe. Pourquoi les singes d'aujourd'hui ne continuent-ils pas à évoluer? Ce qu'on nous répond, c'est que ça s'est fait sur des milliards d'années. Mais c'est d'accord, mais des milliards d'années, mais à un moment donné, ça se transforme bien. On n'a jamais vu, on n'a jamais trouvé un singe, un orang-outan, un gorille, un chimpanzé qui a la tête d'un humain et le reste du corps un corps chimpanzé. Ça s'est jamais vu encore. Donc peut-être que dire oui mais il faut des millions d'années pour que ça se transforme, que ça évolue, c'est peut-être un échappatoire un peu facile. Mais de toute manière, les scientifiques ne peuvent pas dire autre chose. Tant que ces phénomènes n'auront pas été observés, ils continueront d'échapper au domaine scientifique et devront être considérés comme des spéculations basées sur des déductions hasardeuses. Alors on a formulé l'hypothèse, pour ne pas l'appeler la théorie de l'évolution, sans avoir pu observer aucun des phénomènes mentionnés qu'on a vus ensemble. À quelle heure je dois m'arrêter ? J'ai pas d'heure, c'est très bien. Donc,
this is a demonstration of Flip for Mac.
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour valider l'hypothèse de l'évolution. Vous avez parlé tout à l'heure de Darwin. Tout le monde a entendu parler de Darwin. Qui a lu l'évolution des espèces? Personne, moi non plus. Mais, je vais pas perdre mon temps, c'est pas grave, mais ça peut être intéressant quand même. J'ai amené là, Alors, vous, vous le lirez, je le laisserai quelque part, je ne sais pas où, peut-être sur le piano.
This is a demonstration of flute for men.
Alors, comme je suis tellement bon en anglais, j'ai demandé à mon ami Tim si tu peux me traduire ça en lisant un peu fort, au moins cette partie-là, je pense.
On met en doute, on est censé être sceptique dans des.
Si toi t'arrives pas, imagine-moi. Ou alors tu peux peut-être le lire en anglais déjà tout fort, peut-être.
Oui, parce que je comprends pas. Oui. Honnêtement, oui, je comprends pas encore.
Vas-y.
We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. C'est-à-dire, on doute
l'évolution.
Oui. Et la sélection naturelle pour répondre à la complexité de la vie, comme elle est aujourd'hui. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Donc, on devrait encourager une examination attentive à l'évidence pour cette théorie de Darwin.
This is a demonstration of flip for Mac.
Voilà. Merci. Ça, vous l'aurez ici. Voilà. Vous savez qui a écrit ça? C'est une pétition, en fait. Ça a été signé par 700 personnes. En fait, ça a été signé par 700 scientifiques soi-disant évolutionniste, hein, et non pas créationniste, parce que des scientifiques créationnistes existent, Dieu merci. Vous avez là les 700 noms, c'est que d'anglais, hein, les 700 noms de tous les scientifiques qui remettent en doute la théorie de Darwin. Bah, 700 noms. Il y a... Oui, ça c'était fait en janvier 2010. C'est pas mieux, hein? Janvier 2010. Ok? Voilà. Donc, vous avez le nom. Je prends le premier, Philippe Scale. Et puis vous lirez le reste en anglais. Ok? Voilà. D'où est-ce qu'il est? D'où est-ce qu'il vient? Ce qu'il enseigne, s'il est enseignant? Où est-ce qu'il a fait ses études? Voilà. Et c'est quand même 700 scientifiques qui disent. On a un problème, nous scientifiques évolutionnistes, avec ce que Darwin a fait passer depuis quelle date? 1859. Merci. Je ne dis pas dans deux jours, vous allez tout vous en souvenir. Donc, 2010, 1859-2010, plus de 700 signataires de cette pétition en disant on a du mal maintenant à croire à cette idée d'évolution comme Darwin a bien voulu nous le faire croire. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui à l'école, on vous apprend l'évolution selon Darwin. Je vais vous donner une autre image. Je vais vous montrer une autre image. Alors, on va passer ça, on va passer là. Vous savez ce que c'est, ça?
Une mouche.
Oui, une mouche, ça c'est sûr. Vous m'auriez dit un avion, je ne vous aurais pas cru. C'est une mouche comment? Drosophile. Voilà. C'est une mouche drosophile. Alors, je vous ai parlé que dans une théorie, il faut qu'on voit les choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec une variété de mouches drosophiles? C'était pas celle-là, parce qu'à mon avis, celle qu'ils ont utilisée, elle est déjà morte. Une mouche de ce type-là. Ils ont, sur une période d'environ 50 ans, ils ont cherché à faire apparaître une nouvelle espèce de mouche drosophile. Et pendant 50 ans, leur expérience, leur soi-disant évolution, ou plutôt mutation, n'ont donné aucun résultat, ou presque. Le presque, c'est que tout ce qu'ils ont réussi à faire en soumettant les œufs de cette mouche, pardon, à divers agents mutagènes pour muter les œufs, n'ont fait que produire des insectes avec des mouches qui étaient ou difformes, dépourvues de certains organes, les ailes, les yeux, les pattes, voire même la tête. Sur 50 ans. Ils n'ont jamais réussi à, avec leur mutation, à recréer une nouvelle mouche drosophile. En fait, ce que les scientifiques ont fait de tordu, c'est que ils ont donné l'idée de l'évolution le nom de théorie. Mais une théorie, c'est quelque chose qu'on peut démontrer, quelque chose que l'on peut voir. C'est pour ça qu'on devrait plus parler d'hypothèses, parce que les hypothèses, on suppose que l'évolution n'a jamais atteint le stade de théorie scientifique. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je ne voudrais quand même pas prendre trop de temps. Je crois qu'à 9h30, je dois m'arrêter. C'est ça, 9h30, je crois. J'ai une question, ou quelques questions à vous poser. Est-ce qu'il est plus raisonnable de croire qu'un monde aussi ordonné que le nôtre, même si on a l'impression qu'on vit dans un monde de désordre, mais est-ce qu'il est plus raisonnable de croire qu'un monde aussi ordonné que le nôtre provienne d'une intelligence supérieure ou bien d'un chaos conduit par quelques forces obscures? Est-il plus raisonnable de croire que Dieu a tout créé à partir de rien? Ou est-il plus raisonnable de croire que le rien s'est organisé en tout? Imaginez que ça c'est une boîte hermétique. J'enlève pour vraiment qu'il n'y ait plus rien dedans. Là, il n'y a rien. Ok? Là, on va parler du concret de ce que les scientifiques pensent et ce qu'on veut nous faire croire à l'école, dans les aux infos, dans les émissions. Il n'y a rien là-dedans. C'est bien hermétique, plus ou moins. Vous remuez pendant 4,7 milliards d'années, vous ouvrez et il y a tout ce qu'on a autour de nous, vous et moi y compris. Ou vous croyez ça, ou vous croyez que Dieu existe, qu'il vous connaît, et que c'est lui qui vous a créé. Vous savez, il vous faut beaucoup, beaucoup plus de foi pour croire en l'évolution que de croire en un Dieu créateur. Parce que croire en un Dieu créateur, vous aurez moins mal à la tête pour expliquer les choses. Hébreux chapitre 1, verset 10. Si vous voulez regarder ce passage avec moi.
This is a demonstration of flip for Mac.
Hébreux chapitre 1, verset 10. Alors, ce que vous pouvez faire, dès que vous avez trouvé le passage, vous pouvez le lire. Hébreux chapitre 1, verset 10.
This is a demonstration of flip for Mac.
Que vos corps soient bien sur la terre, comme seulement fondé la terre et les dieux
sont le roi des ténèbres. C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Est-ce que quelqu'un peut chercher Néhémie, chapitre 9, verset 6, et une autre personne, le psaume 33, verset 9. Donc Néhémie, chapitre 9, verset 6. Et puis le psaume 33, verset 9. Donc, dès que vous avez Néhémie, lisez-le.
This is a demonstration of flip for Mac.
Voilà, merci beaucoup. Psaume 33, 9. Vas-y.
Car il dit que la chose avec eux. Il ordonne et elle est.
Voilà. Vous savez, on a affaire à un Dieu omnipotent. Vous savez ce que ça veut dire, omnipotent?
Parmi les plus jeunes,
omnipotent. Il y a trois mots comme ça, omnipotent, omniscient, omniprésent. Omni, c'est partout, présent, c'est présent partout. Omniscient, c'est que Dieu sait tout. Et omnipotent, Dieu peut tout. Okay? Et notre Dieu est comme ça. Il parle et la chose existe. Il commande et la chose paraît. Ça, c'est Dieu.
This is a demonstration of flip for math.
Tout le monde a entendu parler des protéines. Une protéine, c'est quoi? C'est une grosse molécule composée d'une longue chaîne d'acides aminés. Alors, je vais essayer de passer un petit peu rapidement tous ces termes-là, mais il faut quand même vous puissiez les entendre. Donc, une grosse molécule composée d'une longue chaîne d'acides aminés. Okay? Vous avez un modèle là, vous avez un autre modèle là.
This is a demonstration of flip for Mac.
Les protéines sont présentes dans les organismes vivants et ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme vivant. Pas de protéines, pas d'organisme vivant. Okay? La molécule de protéines a la forme d'une longue chaîne, comme on peut le voir là, où chaque maillon est constitué d'une substance qu'on appelle les acides aminés. Alors, vous l'avez ici, là, ici. Ces maillons ne sont pas tous identiques. Il en existe 20 différents. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement pour passer ces termes, mais au sein d'une protéine, chaque maillon occupe toujours la même place. Ça veut dire que ce maillon-là a obligatoirement la première place. On ne peut pas le prendre pour le mettre à la fin, ou le mettre là, ou là, ou là. On ne peut pas. Ok? Donc, il suffit qu'un seul maillon soit ou manquant, ou déplacé, ou changer par un autre maillon pour rendre la protéine non fonctionnelle. Jusque-là, vous me suivez?
This is a demonstration of flip for Mac.
Si on prend, je vais revenir sur mon maillon. Si on prend la lettre I dans le mot aimer, imaginez que ça ce soit votre maillon. Vous prenez le I, vous l'enlevez, le mot aimer devient amer. Si vous enlevez ce maillon, le I, et que vous le mettez à une autre place, le mot aimer devient améri. Si vous enlevez ce maillon, la lettre I, et que vous le changez par un autre maillon, une autre lettre, le O, ça devient aomer. Où est-ce que je vais en venir? Dans tous ces cas, le mot aimer perd son sens. Si vous enlevez ce maillon et que vous le mettez autre part, le maillon n'est plus bon pour être utilisé. Si vous dites à quelqu'un « je vous amère » ou « je t'amère », il va avoir du mal à comprendre que vous l'aimez. Hein? Si vous lui dites « je t'amérie », il va peut-être penser à la mère, à un mérissage, je ne sais pas, quelque chose. Mais jamais il va penser que vous êtes en train de dire « je t'aime ». Donc, le même phénomène se produit si un seul maillon de la chaîne d'une protéine est modifié, déplacé, remplacé par un autre maillon. Ok ? Concerne la théorie de l'évolution par rapport à ces acides aminés qu'on a là. L'atmosphère primitive de la Terre, il y a 4,7 milliards d'années, était apparemment composée de gaz tels que l'hydrogène. C'est ce qu'on pense, hein, mais 4,7 milliards d'années, moi j'y étais pas. Et les scientifiques non plus. Mais on suppose qu'il y avait différents gaz tels que l'hydrogène, de l'ammoniac, du méthane, de la vapeur d'eau. Sous l'action d'éclairs, ces gaz auraient donné lieu à la formation des acides aminés. C'est ce qu'on appelle les maillons de la chaîne en fait. Ces différents maillons de la chaîne se seraient accumulés dans l'eau pour former ce que les biologistes, et non pas les créationnistes, mais les biologistes évolutionnistes, pardon, appellent une soupe organique. Ok ? Soupe organique. Ça veut dire qu'ils se seraient ensuite réunis entre eux au hasard pour former les premières protéines. Donc, vous prenez de l'hydrogène, de l'ammoniac, du méthane, de la vapeur d'eau, vous mettez un peu d'éclair, tout ça, ça se met en formation au hasard dans une soupe organique et vous avez ça. Enfin, une petite expérience. Quelqu'un a un stylo ?
Oh, super le stylo, toutes les couleurs en plus.
Alors, tu sais, tu peux écrire pour moi.
Allez, tiens.
T'inquiète pas, de toute manière, on verra pas si t'as fait des fautes ou pas. Tiens. Alors, je vais te dicter quelques mots, et puis tu vas écrire ce que je te dicte. Ok ? Alors, vous savez quelles sont les probabilités qu'une telle chose arrive ? Non, écris ce que tu veux. Vas-y, écris ton nom, ton prénom, ce que tu veux. Vas-y. Alors, j'attends qu'il écrive. Tu me marques ton nom. Alors, prends toute la page. Prends toute la page. Attends, on va faire le contraire. Tu prends ton prénom, ton nom, ton âge. Est-ce que tu aimes manger ? Vas-y. Pendant qu'il fait ça, j'ai bientôt fini. Hein. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se laisser aveugler par une soupe organique qui, par le fruit du hasard, vous a fait, vous et moi. Le hasard fait bien les choses. Hein. Mais on dit aussi que le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Hein. Vous savez qui a dit ça ? Est-ce que vous savez qui a dit le hasard, c'est Dieu qui agit incognito ? Oui, exactement. Einstein. Alors, Miché Bixby, 9 ans. Oui. Tu aimes manger le oui. Ok. T'as peut-être pensé que je disais est-ce que tu aimes manger. Il aime manger ton fils, hein, apparemment. T'aimes pas manger ou pas ? Vous savez ce que je suis en train de vous faire là ? Une soupe organique. C'est bientôt fini, hein, attendez. Vous pouvez me rappeler ce qu'il y avait de marqué ? Michel Bixby, 9 ans. Oui. Je vais vous montrer, selon les scientifiques, comment ça s'est arrivé. Bougez pas, hein. bougez pas. Et tout s'est remis en ordre. Et effectivement, on ne peut pas lire Miché, Bixby, 9 ans, oui. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Vous prenez la protéine, la plus courte, c'est 130 maillons. La plus courte, hein, 130 maillons. Selon les scientifiques, le hasard a fait en sorte que le premier maillon, eh ben, comme par hasard, soit à la première place. Et le deuxième maillon, ben, le hasard a fait qu'il soit à la deuxième place. Et le 130e, qu'il soit à la 130e place. Le hasard fait bien les choses. Quand c'est toi qui as écrit, tu pourras ramasser après. Hein. This is a demonstration. Les probabilités que la mise en place des différents maillons de la plus petite protéine, 130 maillons, ait pu se faire dans le bon ordre. Une chance sur 20 multiplié par 130 maillons. Ok. Voilà, c'est ça. Pour bien saisir l'importance d'un tel nombre, je vais vous donner quelques réflexions concernant l'étude des probabilités. Alors, ceux qui étaient au château de Pardillo il y a quelque temps, vous allez peut-être vous en souvenir. Les chances pour qu'une personne soit gauchère ou chauve avant 30 ans, ou qu'il ait les yeux bleus, ou qu'elle ait la personne des yeux bleus, c'est à peu près une chance sur 10. Gauchère, ou alors chauve, ou alors les yeux bleus. Une chance sur 10. Ok ? Il y en a qui ont les yeux bleus ? Ah, 1, 2,
3.
Alors attends, parce que ça c'est une exception toi. Mais à 30 ans tu étais déjà chaud, hein? Tu étais... Oui. J'allais dire, c'est l'exception qui confirme la règle, hein. T'as quel âge, Tim? Oui. Oh bah ça va, ça va. Alors, mis à part Robert, les chances qu'une personne soit à la fois gauchère et chauve avant 30 ans, c'est une chance sur 100.
Okay.
Les chances qu'elle soit à la fois gauchère, en fait, les chances qu'elle ressemble à Robert, c'est 1 sur 1000. Avant 30 ans. Ok ? Eh bien, le même principe s'applique à la mise en place, au hasard, de la chaîne. C'est-à-dire que, comme il existe 20 acides aminés différents, le premier maillon a une chance sur 20 d'être le bon. Ça va. La chance que les deux premiers maillons soient placés à leur bonne place, première et deuxième, c'est une chance sur 400. Trois premiers maillons, les chances sont de 1 sur 8000. Quand vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ici, au deuxième maillon, les chances sont de... Vous ferez le calcul à la maison, hein. Ça.
Oui.
C'est que le douzième maillon de la chaîne la plus courte, 130 maillons. Plus la chaîne s'allonge, moins on a de chances que les maillons s'alignent au hasard dans le bon ordre. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que les physiciens, les mathématiciens, les astrophysiciens, les scientifiques appellent la progression arithmétique. Alors, pour mieux comprendre cet exemple, je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous avez envie de travailler et gagner 1 centime d'euros par jour ? Qui a envie de travailler pour 1 centime d'euros par jour ? Personne ? Alors, écoutez bien, je vais vous donner un exemple de progression arithmétique. Vous travaillez pour 1 centime d'euro par jour, mais votre salaire est doublé chaque jour. Je vais vous donner quelques exemples. Le deuxième jour, vous gagnez 2 centimes. Le troisième jour, 4 centimes. Le quatrième jour, 8 centimes. Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième.
Comment ?
1 euro combien ? 28. Le neuvième jour, vous touchez combien ? 2,56 €. Au bout de 15 jours, alors les mathématiciens, au bout de 15 jours, Votre salaire est de 163,84 €. C'est encore énorme pour 15 jours de travail. Au 20e jour, 5 jours plus tard, vous gagnez 5242,88 €. Au bout du terme du mois, au bout de 30 jours, vous touchez 5 368 709,10 €. Vous voulez toujours pas travailler pour 1 centime d'euro par jour. Le 41e jour, votre salaire est, par rapport à l'année 2003, grosso modo le budget annuel des États-Unis. Au bout de 41 jours. Ce qui est quand même extraordinairement contradictoire, c'est que tous les mathématiciens, vous allez me dire, les mathématiciens ne sont pas des scientifiques, forcément. Mais, en tout cas pour être scientifique, je pense qu'il faut être un bon matheux quand même. Tous les mathématiciens affirment que les probabilités que les 130 acides aminés de la protéine, la plus courte, se mettent en place au hasard, dans le bon ordre, sont totalement nuls. Mais on nous dit quand même que c'est une soupe organique qui, par hasard, a réussi à mettre tous les maillons à la bonne place. C'est un peu comme ce qui s'est envolé là. Vous pouvez reprendre tous les papiers et vous pouvez le rejeter en l'air 1 000 000 fois et 1 000 000 fois, vous n'aurez jamais la feuille qui va se reformer en A4 avec le nom, l'âge et oui dessus. Jamais. This is a demonstration of flip for Mac. Plusieurs scientifiques reconnaissent aujourd'hui, sans pour autant croire en un Dieu créateur, que le hasard ne peut pas être la source d'un monde aussi complexe et aussi extraordinairement structuré que le nôtre. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu. Je vous ai dit, hein. Vous ne voulez pas croire en Dieu, vous allez avoir mal à la tête pour vous convaincre que vous venez du hasard et que le hasard fait bien les choses. Vous avez peut-être entendu parler de Jean Rostand, biologiste, qui a dit « Malheureusement, je ne parviens pas à imaginer autre chose que le hasard. Mais biologiquement, il me semble difficile d'expliquer même une fleur par le hasard. » Jacques Albert, un autre homme célèbre de science, a écrit « L'absurdité de l'homme, fruit du hasard, est trop énorme, inacceptable. » Sauf que ces gens ne veulent toujours quand même pas croire en Dieu. Il continue en disant « Nous cherchons à nous persuader que cette description est incomplète, qu'elle passe à côté de l'essentiel. Il faut coûte que coûte trouver une autre explication. » Mais si vous leur dites que cette explication s'appelle Dieu, ils retournent parce qu'ils préfèrent savoir être un mensonge et vous le verrez dans les panneaux là-bas. Il y en a un, j'ai oublié son nom, que j'ai mis sur les panneaux, qui a dit c'est ou le hasard ou Dieu. Mais je ne veux pas croire en Dieu. Donc c'est le hasard. Il faut savoir une chose. Nous sommes des créatures merveilleuses et d'une complexité inimaginable. On est à la fois une usine chimique, un réseau électrique, une installation de climatisation, une station d'épuration, le tout commandé par un élément central, notre cerveau. Vous êtes composé de 100 000 milliards de particules microscopiques. Et David avait très bien compris quand il nous dit dans le psaume 139, versets 13 et 14, « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je t'ai fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. » Ce verset, on va le voir beaucoup, beaucoup plus en détail demain, Dieu voulant. Le cœur de l'homme. Le cœur est un muscle de la taille un peu plus d'un poing. C'est le muscle le plus fort du corps. Chaque jour, cet organe bat environ 100 000 fois, chaque jour. Un petit morceau de tissu, alors, je n'ai pas une image de la coupe du cœur, mais qui se trouve à peu près là, à ce niveau-là, ici, là, qui s'appelle, je vous donne ça tout de suite, j'ai oublié, le nœud de sinus, ça s'appelle. C'est ce qui permet au cœur de battre. Les fonctions de ce nœud est d'envoyer un courant électrique toutes les 0,8 secondes à certaines fibres nerveuses dans le muscle du cœur pour que ça puisse battre. Comme il bat, vous savez comment fonctionne un cœur, le sang se déplace à travers tout le corps. Ça fournit de l'oxygène à chaque cellule et ça revient au cœur. Du cœur, il est pompé vers les poumons où il est réoxygéné et alors renvoyé dans le corps. Ça a pris énormément de temps à l'homme pour mettre au point la pompe à essence que vous avez tous dans votre voiture, la pompe à essence ou la pompe à gasoil. Le système de refroidissement. Le système de lubrification, tout ça c'est ce qui se trouve dans un moteur. Il a fallu des années et des années pour mettre ça en place. Mais Dieu, lui, a créé ça en chacun de nous. Et vous savez, croyez-moi, il y a beaucoup de scientifiques qui ne disent pas, qui ont été plongés leur regard dans la parole de Dieu pour déduire certaines choses. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une émission, enfin j'entendais, si c'est sorti un peu à la télé, il y a quelques semaines, et j'ai entendu le reste à la radio, on pensait que jusqu'à un certain âge, quand l'enfant était né, entre 5 mois et un an et demi, je crois, on pensait que les enfants n'étaient pas franchement sensibles à la douleur. Jusqu'en 1970, il n'était absolument pas rare de faire des petites interventions chirurgicales sans anesthésier l'enfant. Parce qu'on pensait qu'il pleurait, mais que sa douleur n'était pas une vraie douleur. Or, ils ont fait des études il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, peut-être 3 semaines, qui ont démontré que même à 5 mois, l'enfant ressentait les mêmes douleurs que nous aujourd'hui, à l'âge que nous avons. Mais jusqu'en 1970, on pensait que les douleurs n'étaient pas importantes, qu'ils pleuraient parce que ça piquait un petit peu peut-être, et on opérait certaines opérations, hein, pas à cœur ouvert bien entendu, mais certaines opérations sans anesthésie. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu, depuis du moment où nous sommes dans le ventre de notre mère, on ressent des choses. Et la personne qui était interviewée, celui qui posait les questions, disait, mais est-ce que vous allez pouvoir faire ce même genre d'expérience sur les fœtus? Ils ont dit, oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et celui qui posait les questions a dit, mais si vous arrivez au même résultat, ça risque de rentrer, c'est quoi le terme qu'ils ont dit, il risque d'y avoir polémique. Parce que si un enfant dans le ventre de sa mère ressent des douleurs, ressent des choses, l'avortement devient autre chose. Parce qu'on avorte aujourd'hui, parce que beaucoup pensent que l'enfant ne ressent rien. Et pourtant, c'est une création de Dieu qui ressent, mais qui ne peut pas parler.
Ce sont des cellules quand même qui sont en formation.
Tout à fait.
Tout à fait,
absolument. Et ça, on va plus le voir en détail, en principe, demain matin. Voilà. Mais cette cellule qui est dans le ventre, enfin quand nous étions cellules, je vais vous montrer des photos, hein, un peu compromettantes, vous allez voir, des photos où quand vous êtes dans le ventre de votre mère, à un certain âge, mais très 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 rapidement, on peut ressentir, alors on peut, ils vont faire des expériences pour tester, savoir si un fœtus peut ressentir les mêmes douleurs qu'une fois qu'il est en dehors du ventre de sa mère. Je ne serais pas curieux qu'ils disent oui, ils ressentent les mêmes douleurs. Vous allez voir. Donc, je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que nous sommes une création merveilleuse de Dieu. Le foie fait en moyenne 1,5 kg. C'est le plus grand organe à l'intérieur du corps humain. Cet organe, on pourrait presque dire, pour avoir une certaine image, c'est une installation de traitement chimique qui remplit au moins 500 fonctions connues dans notre corps. C'est une usine chimique si compliquée que les biochimistes n'ont pas développé une machine s'en approchant, qui accomplirait même une fraction des mêmes fonctions que le foie. Le foie stocke des vitamines, stabilise le taux de sucre dans le sang, fabrique des enzymes et bien d'autres choses encore. Le foie filtre assez de sang en une seule année pour remplir 23 camions de lait. Le foie joue également un rôle de la plus haute importance dans notre processus digestif. La digestion ne pourrait pas avoir lieu sans fonction en rapport avec notre foie.
This is a demonstration of flip for man.
Et je veux parler, je ne sais pas si je vais en parler, mais il y a aussi la bouche, la langue, les intestins, l'estomac, le pancréas. Si ces organes ne sont pas en concert parfait avec leur fonctionnement et celui du foie, vous allez avoir des problèmes majeurs et importants de santé, voire même mortels. En fait, toutes les parties de notre corps travaillent ensemble dans une même harmonie. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul qui dit que dans l'Église, il y a différentes personnes. S'il n'y avait que des mains, s'il n'y avait que des pieds, que des yeux, que des bouches, on n'ira pas bien loin. Dieu nous a fait avec deux mains, deux bras, deux pieds, deux jambes, deux oreilles. Et c'est exactement ce que nous sommes dans l'Église de Dieu. Et on devrait être unis pour marcher ensemble. Si la main commence à dire « moi je vais faire un tour et puis je reviens plus tard », c'est votre corps qui va être handicapé parce qu'il va vous manquer quelque chose. Et c'est la même chose si c'est le pied, si c'est un œil ou autre chose. L'oreille humaine. C'est aussi une merveille de technologie. Cet organe minuscule a le fonctionnement du microphone. C'est ce que j'ai dans la poche, là, je crois que c'est plutôt un dictaphone, mais c'est un peu la même chose. Microphone, le mécanisme d'équilibrage le plus sophistiqué qui n'ait jamais été connu de l'homme. Comment ça marche? Les ondes sonores entrent dans l'oreille et passent le long d'un tube vers l'oreille moyenne. Alors, voilà, ça rentre là, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne.
Okay.
Donc ça rentre là, ça va jusqu'à l'oreille moyenne. Les ondes, c'est-à-dire le bruit, va traverser une membrane qu'on appelle le tympan. Vous avez tous entendu parler du tympan, c'est là. Lorsque les ondes sonores font vibrer le tympan, c'est un très mince tissu. C'est pour ça que les jeunes, il ne faut pas écouter trop fort la musique, parce que vous abîmez votre tympan et après vous n'entendez plus rien, ou presque plus rien. Donc, les vibrations entrent dans l'oreille moyenne, où elles déplacent trois petits os qu'on a ici. Le marteau, l'enclume et l'étrier, ici. Les muscles minuscules fixés aux os amplifient le mouvement et permettent aux os de passer les vibrations vers une autre membrane qu'on appelle la fenêtre ovale. Alors, je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas là-dessus. Ça produit un mouvement dans un petit passage en spirale rempli de liquide appelé la cochlée. Qu'on a ici. Là. La cochlée est remplie de 25 000 récepteurs auditifs. 25 000. Qui permettent les vibrations et les transforment en impulsions électriques. Le hasard fait bien les choses. Ces impulsions sont envoyées par le nerf auditif que vous voyez au fond, là-bas, vers le cerveau. Le cerveau reçoit jusqu'à 25 000 signaux auditifs par seconde. Et le cerveau va interpréter ces 25 000 bruits qu'il entend. La voix, un stylo qui tombe, le tonnerre, de la musique, un oiseau qui chante, un chien qui aboie. En plus de l'audition, l'oreille nous donne également notre sens de l'équilibre. Quand on dit que si vous avez des problèmes avec l'oreille interne, vous risquez de marcher un peu comme ça. Parce que vous avez des problèmes d'équilibre si vous avez des problèmes avec l'oreille interne. La cochlée est reliée à trois tubes appelés les canaux semi-circulaires. Alors je pense que tout ça vous les avez, alors vous...
This is a demonstration
par là-bas. Par là-bas, quelque part là-bas, je ne sais pas où. Là-bas, voilà. Merci Timothée. Donc, je vais passer un petit peu tout ça, comme ça vous pourrez jeter un œil là-bas dessus directement. C'est en fait pour vous dire que l'oreille, par exemple, dans ce cas-là, est merveilleusement conçue. Elle est merveilleusement coordonnée. Et démontre, sans aucun doute, qu'il a fallu un créateur pour ça. Pour conclure, j'aimerais vous apporter les paroles de Dieu que l'on retrouve dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 4. C'est Dieu qui parle ici en Job 38, verset 4.
Et il dit,
où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Presque envie de croire que c'est une question que Dieu pose aux scientifiques qui ne veulent pas croire en lui. C'est une bonne question posée de la part de Dieu le Créateur à tous ces gens qui refusent de croire en lui et qui préfèrent dire partout autour d'eux que le monde existe parce que le hasard fait bien les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a ouvert les yeux sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes, sur la création que nous pouvons voir tous les matins quand on se lève. Tous les soirs, si vous avez le privilège d'habiter dans un lieu où il n'y a pas de pollution nocturne et vous pouvez voir le ciel étoilé. Et n'oubliez jamais que le grand créateur n'est jamais loin de celui qui veut le connaître. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit « Car c'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. » Ça veut dire que tout votre être doit être mis au service de votre Créateur. Sachez encore une dernière chose, c'est lui ou c'est celui par qui toute chose existe qui est venu mourir sur la croix afin de vous réconcilier avec lui. Peut-être que vous avez entendu dire qu'il fallait faire de bonnes choses pour avoir une chance sans aucune assurance d'être sauvé. Peut-être que vous avez reçu cet enseignement que plus vous ferez de bonnes choses et plus vous aurez de chances d'aller dans le royaume de Dieu. Et si vous n'en avez pas fait assez de bonnes, vous avez une nouvelle chance, après avoir quitté ce corps, une nouvelle chance qui s'appelle, vous savez comment ? Le purgatoire. Mais à quel moment Dieu nous parle d'un lieu pareil ? À aucun moment. Par contre, ce qu'il nous dit en Hébreux 9, 27, si je ne me trompe pas dans la référence, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Si vous pensez pouvoir être en règle, si vous pensez pouvoir être sauvé grâce à ce que vous faites, alors non seulement beaucoup de versets dans la parole de Dieu, comme par exemple Éphésiens chapitre 2 verset 8, 9, 10, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Mais si vous persistez à croire que c'est grâce ou par vos œuvres que vous pouvez être sauvés, vous êtes en train de dire à ce moment-là, Dieu, tu as fait n'importe quoi en sacrifiant ton fils parce que je peux me sauver moi-même. Si on pouvait se sauver nous-mêmes, Dieu n'aurait jamais donné son fils. Jamais. Il n'est pas fou. Il n'est pas criminel. Mais parce qu'il nous aime et parce qu'il est juste, il donne son fils pour que nous puissions venir à ses pieds, le reconnaître comme le créateur de toutes choses et de votre vie. Qu'on puisse se reconnaître pécheur et dire « J'ai besoin de toi et de ton pardon. » Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous puissiez être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Seul. C'est pas des croyances, c'est pas une religion, c'est pas une église qui vous sauve. C'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne, c'est pas le fait d'être né dans un pays chrétien qui vous sauve. Vous pouvez naître dans un pays musulman. Vous pouvez être sauvé si vous venez à Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Pendant un moment, il s'est abaissé à notre niveau. Ésaïe 45, verset 12, c'est mon dernier verset. C'est Dieu qui parle et dit « C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. » C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leurs armées. Alors sachons rendre toute la gloire à Dieu, car tout ce qu'il a fait est parfait. Et vous êtes une création de Dieu. Et en tant que création de Dieu, on n'est pas malheureusement parfait à cause de notre péché. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, on est rendu parfait aux yeux de Dieu. Et si on se tourne vers Jésus-Christ, et si on reconnaît nos péchés, si on reconnaît qui il est, alors quand il viendra vous chercher, vous serez non seulement avec lui pour l'éternité, mais là vous serez parfait.